Europe 1.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Dans 20 minutes sur Europe 1, Catherine Ney nous contera ses souvenirs d'un certain Philippe Grinbach, ancien directeur du journal L'Express dans les années 70 et agent du KGB, les services de renseignement soviétiques. C'est donc dans 20 minutes, tout de suite sur Europe 1, Romain Desarbres reçoit la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, en direct sur Europe 1 et CNews.
Bonjour Marie-Hélène Toraval.
Bonjour Romain.
Merci d'être avec nous. C'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1, maire de Romans-sur-Isère. Vous êtes la maire de Romans-sur-Isère, surnommée la maire courage, pour avoir le courage de dire les choses comme elles sont. Et vous avez été récompensée hier soir, car vous a été décerné le prix de l'élu local de l'année par le trombinoscope à l'Assemblée nationale. Déjà, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez su que vous étiez l'élu local de l'année 2023?
Je vais être très honnête, j'étais particulièrement surprise. Et en même temps, pour moi, c'était une belle reconnaissance aussi d'avoir eu le courage de prendre la parole, de prendre une parole qui soit vraie, qui soit objective et qui traduise une situation de terrain. Et aujourd'hui, je dis que j'assume d'avoir fait le choix de peut-être de ne pas avoir fait du politiquement correct, mais d'avoir fait du politiquement autrement.
Alors on va en parler justement. Vous avez émergé médiatiquement en prenant la parole suite à la mort du jeune Thomas à Crépol, commune proche de Romans-sur-Isère. Comment a évolué votre ville depuis ce drame et est-ce qu'elle porte encore les stigmates de cette soirée tragique?
Donc déjà, au-delà de la ville, c'est l'ensemble d'un territoire qui porte cette douleur, la douleur de ce drame, l'incompréhension et aussi la colère. S'agissant de l'ambiance de la ville, je dois dire que le quartier est quand même bien calmé depuis. Il n'en reste pas moins qu'on fait toujours face à des incivilités, qu'on fait toujours face aux problématiques qui sont liées au trafic de drogue et une délinquance aussi qui est de plus en plus violente dans son intensité.
On va y revenir sur votre constat, sur ce que vous voyez. Votre parole est forte parce que c'est celle du terrain, c'est celle de la réalité. Vous n'êtes pas hors sol. Vous avez notamment parlé des délinquants dont les parents étaient déjà des délinquants. Donc cette dynastie de délinquants, ça vous a été beaucoup reproché. Il faut du courage en France pour dire ces choses-là.
Tout à fait. Enfin, je ne sais pas s'il faut du courage, mais c'est la réalité. J'assume les propos qui ont été les miens. S'il faut les réitérer, je vais les réitérer parce que c'est la réalité. C'est ce qu'on constate chaque jour. Je voudrais dire que j'ai entendu aussi la ministre qui est intervenue sur ce sujet, qui nous parle de prévention. Moi, je dis qu'il faut parler aussi de traitement. C'est-à-dire qu'on a un niveau de délinquance chez certains jeunes qui, aujourd'hui, appel à des mesures fortes et aujourd'hui, on n'a pas l'artillerie qui permet de répondre à cette situation.
Alors, vous faites référence à Sabrina Agresti-Roubache, qui est la secrétaire d'État en charge de la ville et de la citoyenneté que je recevais mercredi. Elle organise les Beauvau de la délinquance. Elle rencontre les élus de terrain. Elle vous a rencontré ?
Absolument pas.
Pas encore.
Vous savez, les rencontres avec les élus de terrain, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment rentrer dans le dur. On a eu Madame Berger, qui nous a fait le tour de France de la parentalité, qui a été avortée suite au remaniement gouvernementale. Aujourd'hui, il y a cette nouvelle forme, cette nouvelle appellation.
Les Beauvau de la délinquance.
Alors, les Beauvau de la délinquance, moi, ça peut être tout à fait intéressant. Sauf que, moi, je vous dis, à titre personnel, je n'ai pas été contactée aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui l'ont été, mais s'agissant de la situation qui est la nôtre, aucun contact.
Alors, quelle est votre solution? Si la secrétaire d'État qui vous regarde peut-être, donc Sabrina Agresti-Roubache, vous regarde ce matin, se dit, tiens, Marie-Hélène Toraval, on va aller la rencontrer. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Pour déjà, avant que le jeune devienne un délinquant, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir la délinquance?
Alors, la prévention de la délinquance, on travaille déjà depuis longtemps sur la prévention de la délinquance. J'ai déjà dit aussi que les méthodes qui étaient employées, je l'ai dit, et ça m'a été reproché par certains, mais que l'État n'a pas été défaillant en termes de moyens, mais c'est peut-être la forme aussi qui ne convient plus à la situation de la délinquance qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est resté sur des politiques d'il y a 20 ans, 30 ans, et aujourd'hui, on a un niveau de délinquance qui est produit aussi et qui est le fruit de la non-volonté d'intégration de certains. C'est-à-dire qu'à une époque, les premières vagues d'immigration, ou les premières situations, parce que la délinquance n'est pas uniquement liée à l'immigration, ce serait trop facile de la réduire comme cela, mais aujourd'hui, on a des jeunes avec lesquels les politiques de prévention qui sont menées ne correspondent plus. Aujourd'hui, la seule prévention...
Ils ne veulent pas s'intégrer, ils ne veulent pas rentrer dans le droit chemin.
Ah, mais c'est pire que ça. Pour certains, ils le combattent. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'adhérer aux valeurs, d'avoir des droits, des devoirs, c'est ce qu'ils combattent, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les zones de non-droit où on a des politiques, où on a des règles qui sont carrément en dehors des règles républicaines qui sont les nôtres et que l'on doit tous partager.
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ?
Alors je pense qu'il faut qu'on ait un diagnostic partagé, c'est-à-dire qu'on a plusieurs situations, il n'y aura pas une politique, mais il y a une politique avec un plan d'action qu'il faut mettre en œuvre. On ne peut y arriver qu'ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confier cette seule responsabilité aux mairies, on ne peut pas confier cette seule responsabilité aux départements, enfin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille ensemble avec l'État, mais il faut accepter de voir la réalité comme elle est, tout simplement.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui vous dit « moi je veux devenir un voyou, je veux rester un voyou, je ne rentrerai pas dans le droit chemin », comment on fait avec lui ?
Mais accessoirement...
Et vous semblez nous dire que ce ne sont pas des cas isolés, qu'il y en a beaucoup.
Ah ben il y en a beaucoup, alors c'est toujours, c'est quand même une minorité, mais finalement on a l'impression que cette minorité a une capacité à nuire qui fait que le quotidien des Français de manière générale en est carrément affecté, quoi. Oui. Et tous les jours et à chaque moment. Donc ça, ce n'est plus entendable. Et il y a une attente forte de la population par rapport à cette situation.
Qu'est-ce que vous disent vos administrés là-dessus ?
Mes administrés m'ont énormément encouragé par rapport à ma prise de position. Et ils sont parfaitement conscients que ça ne relève pas de la seule décision du maire. C'est-à-dire que le maire a besoin d'être accompagné et au-delà de cela, à être considéré aussi comme une force d'intervention forte. Mais il faut aussi qu'on ait un plan d'action qui soit construit avec l'État.
On parle beaucoup de la responsabilité parentale. C'est l'une des clés ?
Alors, je pense que c'est l'une des clés. La parentalité est un gros problème. C'est-à-dire que vous avez des enfants, dès le plus jeune âge, c'est déjà une problématique. Moi, j'ai parlé de responsabilité des parents. J'ai osé parler de culpabilité des parents. Et je crois que ça a été repris par certains ministres. Aujourd'hui, j'ose vous dire qu'il y a de la complicité de certains parents.
Certains parents complices de leurs enfants
bien sûr.
Délinquants. Donc ça veut dire certains parents qui bénéficient de l'argent du trafic de drogue ?
Oh, bien sûr, qui bénéficient, parce que c'est le modèle économique de la famille pour certains. Enfin, complicité aussi parce que je pense que dans certains larcins qui sont opérés ou certaines situations, ils savent très bien ce que fait leur enfant. Donc, et ils en profitent. Quoi. Donc à un moment donné,
c'est une responsabilité.
Ils bénéficient de logements sociaux. Je vous assure que pour extraire quelqu'un du logement social, les démarches juridiques sont extrêmement compliquées. C'est-à-dire que le droit est fait de telle manière qu'il est plus difficile pour celui qui défend les causes. C'est beaucoup plus difficile pour lui de faire appliquer la règle que pour l'autre de les contourner. C'est quand même pas normal.
Alors quand vous entendez le Premier ministre, Gabriel Attal, promettre le « tu casses, tu répares », qu'est-ce que vous dites ? Vous dites « bon ». Il y a déjà un constat qui est là. Cette petite musique est douce à vos oreilles, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour mettre ça en place, pour que cette formule aboutisse à quelque chose de concret ?
Moi, je vous pose une question, mais est-ce que M. Attal a vu le niveau de la casse ? Je suis sûr que oui. Il est bien conscient de la casse qui a été faite, par exemple, lors des émeutes l'été dernier. Pour ma part, j'ai l'ensemble des bureaux du bailleur social qui ont été mais, tout simplement saccagés, mais sauvagement saccagés. Tu casses, tu répares. Je veux dire, ils ne vont pas me réparer les bureaux du bailleur social.
Non.
Alors après, on parle des travaux d'intérêt généraux. Enfin, ce ne sera jamais à la hauteur de ce qui est fait. Et puis au-delà du casse, tu répares, c'est-à-dire qu'il faut voir tout le cheminement qui est celui de ces jeunes lorsqu'ils en arrivent à des actes comme cela. Enfin, et je pense que ça... Enfin, je veux dire que toutes les méthodes qui seront mises en face ne vont pas changer grand-chose. Je pense qu'à un moment donné, il faut, pour certains, il faut les reciviliser parce qu'ils sont vraiment en dehors de tout système. Et uniquement des renduleurs.
Il y a eu des condamnations après les émeutes à Romans-sur-Isère ?
Aucune, il n'y a eu aucune interpellation. Alors, tu casses, tu répares, donc à qui je demande ?
Donc, le bureau d'aide sociale ?
Les bureaux du bailleur social.
Les bureaux du bailleur social ont été incendiés, zéro arrestation, zéro condamnation.
Zéro condamnation, pas d'arrestation, pas de condamnation.
Donc, on est loin du casse, tu répares.
Bah, oui.
Une question un peu plus politique. Est-ce qu'il faut un retour du cumul des mandats ? Je disais que vous n'étiez pas hors sol, vous étiez les deux doigts dans la prise de la réalité. Est-ce qu'il faut le retour du cumul des mandats, que les maires comme vous puissent être à nouveau députés, que les maires comme vous puissent être à nouveau sénateurs, pour remonter de l'expérience? Moi, aux assemblées.
Je pense que le mot cumul, c'est un mot extrêmement mal choisi, parce que dans le mot cumul, on sous-entend une certaine forme de profit. Et je pense que ça... Ça a vraiment desservi.
Les Français se disent, il va toucher deux salaires.
Voilà. Je pense que on peut limiter les choses. Vous voyez très bien, par exemple, le salaire des élus locaux en fonction des différents.
Alors que c'est capé en réalité.
C'est capé. Oui. Donc après, les élus sont écrêtés, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais bien évidemment, parce que aujourd'hui, si on n'a pas ce vécu, je ne vais pas parler du ressenti, du vécu. Du terrain, ben je pense que l'objectivité et la capacité aussi à construire la loi, eh bien, elle n'est pas suffisamment là.
On a parlé beaucoup de Mayotte, à raison d'ailleurs ces derniers temps. Gérald Darmanin veut abolir le droit du sol pour tenter de contrôler l'immigration qui est à ce jour totalement incontrôlée sur l'île de Mayotte. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, selon vous ?
Pour moi, c'est un début de bonne idée. Je pense qu'il a eu le courage de le faire et je pense qu'il faut le saluer. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi de l'envisager sur le territoire national. Au-delà de cela, je pense qu'il serait intéressant aussi de mettre en œuvre ce que la loi nous autorise à faire. Je voudrais revenir sur les OQTF qui, aujourd'hui, moins de 10% sont opérés. Donc, il y a un ensemble de dispositions aujourd'hui qui permettent de lutter aussi contre ce flux. Et je pense que le laxisme, entre guillemets, qui est opéré sur l'immigration, fait que le territoire, la France, devient extrêmement attractive de par ce laxisme.
L'abolition du droit du sol, vous y êtes favorable uniquement pour Mayotte ou également pour le reste de la France ?
Je suis tout à fait favorable pour le reste de la France. Vous savez, c'est un sujet, nous, en province... au-delà des limites de la région parisienne qu'on a tous les jours. La semaine dernière, moi, j'ai écrit au préfet pour savoir combien j'avais de personnes en situation d'OQTF sur ma ville. Je lui ai demandé aussi quel était le nombre de mineurs non accompagnés que j'avais sur ma ville, le nombre de migrants que j'avais sur ma ville qui sont en fait hébergés par des associations qui répondent à la demande de l'État qui est de dire lorsque le président de la République dit on va accueillir 10 000 tant de migrants, et bien finalement ça ruisselle sur nos territoires sans que nous en soyons prévenus, sans que nous en soyons informés. Ça n'est pas normal parce que ensuite nous retrouvons ces personnes dans les dispositifs sociaux qui sont les nôtres.
Il y a déjà des départements en métropole où il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de clandestins. Par définition, on ne sait pas exactement combien. C'est le cas notamment en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Est-ce que ce qui se passe à Mayotte préfigure, selon vous, ce qui peut se passer en France dans quelques années ?
Je serais pas... J'ose penser que non.
Vous espérez que non ?
J'espère vraiment qu'il va y avoir une prise en main de la situation parce que ce n'est plus soutenable.
Je voulais vous entendre également sur un tout autre sujet, la grève à la SNCF. On est en période de vacances scolaires. Ce week-end, un train sur deux circule, une grève qui surprend même le ministre des Transports compte tenu des augmentations de salaire. Il a été surpris, c'est lui qui dit. Vous la percevez comment cette grève ? C'est une prise d'otage des usagers ?
Ah, mais c'est une prise d'otage radicale des usagers. Je parle d'usagers parce que pour moi, c'est un service public. Généralement, on parle d'entreprise. Moi, je ne connais pas d'entreprise qui se voit financer son outil de production comme la SNCF là, en dispose. Juste une chose, à chaque fois que ces grèves reviennent, c'est au moment où les Français ont le plus besoin de ce service. Je rappelle que les Français payent au moins 3 fois sur ce service. Déjà, si vous ne prenez jamais le train, de par l'accompagnement qui est celui de l'État pour financer au travers de subventions, mais aussi le financement de la dette, qui est celui de la SNCF, sans avoir pris le train, ça vous coûte déjà 300 euros. Ensuite, vous payez votre billet de train pour ceux qui le prennent. Donc vous avez déjà payé 2 fois. Et lorsqu'il y a les vacances, vous trinquez ? Non, ça n'est pas normal. Puis vous savez, sur la SNCF, les régions ne sont pas en reste. Si je regarde la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un plan de 5,7 milliards qui a été voté, notamment pour les équipements ferroviaires sur notre région. Donc c'est une troisième fois.
Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, je l'ai dit au début de cet entretien, vous décrivez la réalité sans phare, et on le constate à l'instant. La réalité, parfois elle gratte, parfois elle dérange, parfois elle ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de ce qu'on imagine. CNews décrit la réalité dans les quartiers, dans les villes, dans les campagnes. Et ça dérange certains, visiblement. Reporters sans frontières a saisi le Conseil d'État pour que la rédaction de CNews soit plus contrôlée. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez découvert cela ?
Mais moi, j'étais choquée. J'étais choquée parce que je ne pensais pas que ça pouvait encore arriver, ces choses-là. Enfin, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez détaillé, mais je voudrais juste vous dire une chose. Pouvons-nous être libres de choisir les chaînes que nous allons regarder ? Je veux dire, moi, on ne m'oblige pas à regarder CNews. On ne m'oblige pas à regarder d'autres chaînes. C'est-à-dire que la liberté de choix, la liberté de ton, ça veut dire que lorsqu'elle convient, lorsque la ligne éditoriale convient, bien, il y a des spectateurs. Je pense que vous avez des résultats qui sont là et qui le traduisent. Donc, l'ARCOM, très bien, mais pensez à nous, laissez-nous choisir.
Merci beaucoup Marie-Hélène Toraval. C'était la grande interview sur CNews et sur Europe 1 de la maire de Romans-sur-Isère. Merci à vous Madame le maire et très bonne journée.
Merci Madame.
Merci Romain Desarbres et Marie-Hélène Toraval. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures du vendredi. Dimitri Vernet, Olivier Delagarde, Eugénie Bastier et Catherine Ney. À tout de suite.